Nova. Dans le genre de
Clémentine Autain.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône. Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Clémentine Autain, est-ce que vous vous trouvez féminine ?
Plutôt féminine, oui. Je fais partie d'une génération qui, justement, est passée après celle qui a pensé que pour avoir l'égalité, il fallait se transformer en homme.
Bonsoir et bienvenue dans ce 42e épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir Clémentine Autain. Clémentine Autain est une femme politique et journaliste française. Elle est députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis depuis juillet 2017. Elle fait également partie d'Ensemble, un mouvement qui regroupe plusieurs formations du Front de Gauche. Et si je l'ai invitée ce soir, c'est parce qu'elle a un parcours et une façon singulière d'incarner le politique. Elle y arrive via le militantisme, elle fait partie de l'UNEF pendant ses études, fait sa thèse sur le MLF, et elle fait de la politique avec son genre, avec une conscience accrue de son genre, avec son temps. En 2007, elle n'avait pas hésité, par exemple, au lendemain de l'affaire Strauss-Kahn, à parler dans un livre du viol qu'elle avait elle-même subi à 23 ans lorsqu'elle était étudiante. Elle parle, dit-elle, en reprenant l'expression de Françoise Héritier, pour que la honte change de camp. Elle sort aujourd'hui « Dites-lui que je l'aime », consacrée à la relation qu'elle a entretenue avec sa mère, l'actrice Dominique Lafin, qui disparaît lorsque Clémentine Autain a 12 ans. Une mère défaillante, pas suffisamment bonne, comme dirait Winnicott, alcoolique, dépressive, qui a bien du mal à s'occuper de sa petite fille.
L'une des dernières fois que nous nous sommes vus, j'avais 11 ans, et j'ai traversé la gare de Lyon avec toi, ma mère, dans un chariot à bagages. La nuit tombait, sous une chaleur accablante. Tu revenais de Suisse où tu avais interprété un personnage qui mourait sur scène dans une pièce de théâtre, le retour de Guillaume Tell. Avec ton amoureux du moment, Patrick, je crois, nous étions venus te chercher à l'arrivée du train. Nous t'avions retrouvé sous le train. En regardant défiler les passagers, nous étions blêmes de ne pas t'apercevoir. Un attroupement s'était formé sur le quai alors que nous nous avancions. Les gens parlaient fort, ils avaient l'air inquiets. C'est toi qui les entourais. Tu étais saoul. Tu avais raté les marches de l'escalier en descendant du wagon et tu délirais sur les rails, incapable de te relever.
C'est un récit poignant qui se lit comme un trajet de réconciliation du sujet avec lui-même, de réconciliation avec ce passé enfoui et qui avait été longtemps repoussé derrière une paroi que Clémentine Autain pensait étanche, la certitude de ne pas lui ressembler à cette mère. Et puis c'est un livre qui pose des questions qui sont au cœur de cette émission. Comment on se construit face à un modèle défaillant? Quelle relation on entretient avec sa propre féminité? Comment est-ce qu'on acquiert sa liberté quand on est une femme? Ce soir, je vous propose de passer une heure dans le genre de Clémentine Autain.
Nova.
Dans le genre. L'enfance.
Si je devais répondre en une phrase, j'irais dans plusieurs familles. Alors évidemment, au démarrage, dans une famille... avec ma mère, un peu dans une formule, dans ma petite enfance, famille monoparentale, avec une mère actrice, dépressive, assez défaillante, rigolote aussi, mais qui ne m'a pas laissé que des bons souvenirs. Et puis après, comme c'était très difficile, mon père a décidé de me récupérer d'une certaine manière. Et là, j'ai vécu dans un cadre familial beaucoup plus réglé.
C'était à Paris, c'était.
Oui, j'ai grandi à Paris. J'ai grandi à Paris, essentiellement autour, je dis toujours autour de la place Clichy. En gros.
D'accord, dans le 17e.
Quoi, ah, donc dans le 17e, ouais. Dans le 8e, dans le 9e, dans le 18e, autour de la place Clichy, entre 2 ans et 30 ans, où je suis, à partir de 30 ans, je suis allée vivre en Seine-Saint-Denis, que j'aime beaucoup.
Alors dans cette émission, on parle un peu de normes de genre. Donc si vous deviez parler de vos parents, vous parliez de votre mère, vous disiez oui, une mère bon, un peu dépressive, un peu défaillante, vous la racontez dans un livre qui vient de sortir. Par rapport au féminin, c'est-à-dire par rapport à comment elle se positionnait par rapport au féminin, vous diriez quoi de votre mère?
D'abord, c'était une féministe. Elle était féministe engagée. Alors, je ne sais pas exactement quelle était l'ampleur de son engagement. C'était surtout, je pense, une pratique. Et c'était une époque aussi, le mouvement Libération des Femmes. Donc, elle allait dans ces groupes femmes. Elle faisait des dessins pour un journal de l'époque qui s'appelait Les Pétroleuses, qui était du côté de ce féminisme bien rouge. Et je pense que c'était plus une conscience, une pratique, une réflexion sur elle-même. Et elle était en même temps assez féminine. Alors, on disait qu'elle était elle avait un côté garçon manqué.
Elle avait les cheveux courts.
Elle avait les cheveux courts, mais elle avait toujours un rouge à lèvres impeccablement mis. Elle était aussi très féminine, une part très féminine. Et donc...
C'était une actrice aussi, votre mère, donc c'était quelqu'un qui avait envie d'être regardé. Enfin, c'était quelqu'un.
Oui, enfin, qu'on avait aussi marre d'être regardée comme un objet sexuel. Mmh. Elle était d'une beauté assez remarquable et je crois que les hommes la regardaient beaucoup. Et elle avait envie d'être regardée pour autre chose que sa beauté et ne pas être prise pour un objet sexuel. Elle voulait être une artiste reconnue pour son travail, pour son talent. Et elle voulait aussi bousculer les codes de la séduction, les codes de la maternité, les codes de la sexualité. Et c'est pas simple. Quand on est pionnière, je pense que c'est difficile. Donc, je ne crois pas qu'elle avait une relation apaisée à ces questions-là, mais elle avait une volonté de subvertir les normes et de ne pas se laisser enfermer dans des normes sexistes, stéréotypées.
Et vous diriez quoi de votre père ?
Non, mon père, en revanche, était assez formaté dans les normes. Il le dit lui-même, ça fait partie des engueulades qu'on a de façon très, très récurrente, parce qu'il est absolument impeccable pour dénoncer le mépris de classe, le capitalisme destructeur, l'oppression en tout genre. Mais quand on arrive sur la question de l'égalité homme-femme, il y a une petite faille, il le sait. Donc c'est une engueulade assez récurrente que l'on a. Je pense qu'il n'arrive pas totalement à bien ressentir d'une certaine manière le sujet.
Et vous diriez que c'est un homme, ou en tout cas enfant, vous diriez que c'était un homme que vous voyez comme viril, ou c'était pas ce truc-là ?
On peut pas dire non plus que c'est... Non, c'est pas un modèle...
De virilité
pas très viril.
Non plus.
Ouais. Non. D'abord,
il est artiste,
grand artiste.
Aussi, hein. Ouais.
Donc il y a cette partie avec beaucoup de sensibilité. C'est un père qui peut pleurer. Donc je ne le mettrais pas dans la catégorie viril, mais en revanche, avec pas mal de stéréotypes qui sont sans doute liés à l'éducation et à un travail qu'il n'a pas jugé prioritaire à ce moment-là. Et peut-être qu'il s'est braqué avec ma mère aussi, qui lui parlait beaucoup de ça. Et lui, il voyait pas trop le problème. Et régulièrement, mais quelques fois, quand on s'est accroché sur ça et qu'on parle de ma mère, c'est toujours le moment où ça chope. C'est-à-dire, on est d'accord sur plein de choses, puis à un moment, il dit quand même « Oui, puis bon, il y avait ces histoires de féminisme, elle est partie parce que pour des histoires d'assiettes... mal lavé, mais enfin merde, il n'y avait que deux assiettes à laver. » Et donc, invariablement, je lui réponds « Oui, et alors, même s'il y en avait deux, pourquoi c'était elle qui devait le faire ?» Et lui insiste sur « Mais enfin, c'était deux assiettes. » Donc, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien appréhendé, à mon avis, de son côté à lui. Et puis, des phrases qu'il disait, mais qui sont très banales, en fait.
Ouais, ouais.
Comme il m'a dit un jour « Institutrice pour une fille, c'est formidable, ma fille. » Un jour, je voulais être instite. « C'est bien pour une femme. » Et ça m'est resté beaucoup dans la tête. « C'est bien pour une femme. » Comment c'est bien pour une femme ?
On va écouter une première chanson que vous avez choisie pour nous, Clémentine Autain. C'est une chanson de Barbara. « Gare de Lyon ». C'est une artiste que vous aimez particulièrement, Barbara.
Passionnément.
Ouais.
Depuis toujours.
Alors, on écoute ça.
Je te téléphone près du métro Rome, Paris sous la pluie me lance et m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise, ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg, y a d'autres jardins pour parler d'amour. Y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon, nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons, viens voir les fontaines, viens voir les pigeons, viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle en toute saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante Barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite ballon à la gare de Lyon.
Voilà, c'était Barbara sur Nova, gare de Lyon. On est toujours avec Clémentine Autain. Clémentine, vous, on parlait un petit peu de vos parents, de comment ils se positionnaient chacun par rapport à la masculinité, la féminité. Vous étiez quel type d'enfant? On l'entrevoit un peu dans le livre hein, que vous avez écrit. Enfin, on vous voit un peu enfant, mais comment un enfant assez responsable?
Oui, un enfant un peu trop parent de sa mère en particulier. Un enfant obligé d'être assez responsable. Une enfant assez anxieuse en réalité, assez anxieuse, et puis avec des rêves bizarres pour un enfant, des rêves de règles, de normes, de rythmes, de vivre dans un schéma.
De limites. De...
Voilà, alors que je pense que mes copines trouvaient extraordinaire d'avoir une mère comédienne, un père chanteur, que c'était ouais. vraiment... Je pense
génial.
Que mes copines, ça les faisait vraiment fantasmer, cette vie, justement, bohème, ouais. où on mange à n'importe quelle heure, ou je sais pas où il se passe, enfin, pas chez mon père, on mangeait ouais. à l'heure, mais avec ma mère, en tout cas, quelque chose d'assez bohème, de pas très réglé, et moi, je fantasmais de leur linge de maison impeccablement rangé, toujours avec une odeur magnifique, de ses horaires de table qui ne bougent pas, de ses règles où un jour c'est l'un qui met la table, le lendemain c'est le frère ou la sœur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quelque
ouais,
chose
bien sûr.
De très tranquille, des vacances régulièrement, toujours au même endroit, très calme, on s'amuse.
Ouais, des repères, quoi.
Oui, une forme d'innocence aussi peut-être, enfin en tout cas de bienveillance
d'enfance,
et de protection
ouais.
de la part des parents, et qui était très liée pour moi à un rythme réglé. Je rêvais d'un rythme régulier. Et j'avoue qu'en grandissant, j'ai souvent plaisir aux gestes réguliers.
Alors, vous disiez que vous étiez une enfant un peu anxieuse. Si on parle de féminin, justement, quand vous êtes devenue une adolescente et puis une jeune femme, c'était quelque chose, ça a été compliqué pour vous ou pas du tout, l'inscription dans le féminin ?
D'abord, j'avais reçu pour le coup une éducation à ce sujet vraiment. Ma mère interdisait les poupées Barbie. Enfin, j'avais.
Ah oui.
Oui, oh, c'était interdit absolument. C'était interdit. Donc voilà, on m'offrait plutôt des jouets, pas des jouets pour les filles. Enfin, il y avait une idée qu'on c'était une époque. Hein, ce mouvement de libération des femmes, ces années 70. Et donc moi, j'ai fait partie des enfants qui ont eu une éducation. On essayait quand même de casser les codes. Après, suffit pas de dire il y a pas de poupée Barbie pour totalement s'émanciper des normes sexistes que j'observais à l'école. Mais je dirais, j'ai plutôt des outils pour les regarder.
Vous aviez une conscience de ça assez tôt, en fait.
Je pense oui. Je pense oui.
Et vous, les signes?
C'était une question. Alors, avec une belle-mère qui, à l'inverse, elle disait « Oh là là, les féministes, elles sont chiantes, elles ne savent pas faire la cuisine. » Mais c'était ironique. C'était... Donc, je voyais bien qu'il y avait un enjeu autour de ces rapports hommes-femmes. Donc, il y avait cette famille plus réglée avec ma belle-mère qui critiquait les féministes, mais en même temps dans un univers qui me semblait plus calme, plus réglé. De l'autre côté, ma mère qui était très féministe, mais dans une espèce de tourbillon. Donc, mais je pense que c'était déjà tôt assez une question, plus ou moins clairement pensée, mais oui, c'en était une.
Et les signes de la féminité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez adopté assez spontanément à l'adolescence ou pas trop, ou, enfin, comment vous êtes positionnée par
oui,
rapport à ça?
Oui, plutôt ouais. féminine, oui, oui. Oui, oui. Et là aussi, c'est une question générationnelle. Je pense que le féminin, après, en devenant vraiment féminine, féministe, je pense que je fais partie d'une génération qui peut s'autoriser à être féminine tout en étant féministe. Parce que fut un temps, et je parle là même des suffragettes,
ouais, parler,
même
ouais.
d'avant
ouais.
le mouvement de libération des femmes, je crois que la revendication de l'égalité se conjuguait sur un alignement sur le masculin. On voulait ce qu'avaient les hommes et qui nous était interdit. Donc, on voulait pouvoir voter, on voulait ne pas être enfermé dans la maternité, dans tout ce qu'elle peut avoir d'aliénante, d'oppressante. Et donc, évidemment, dans la tenue, dans la façon d'être, on s'habillait comme des hommes. Quand on était féministe, on avait une tendance à vouloir ressembler aux hommes. Et à force d'avoir conquis des droits, etc., on est devant, aujourd'hui, au XXIe siècle, d'autres sujets. C'est qu'est-ce qu'on fait du masculin et qu'est-ce qu'on fait du féminin ? On a dévalorisé le féminin, survalorisé le masculin, et donc je pense qu'on est dans cet entre-deux où on cherche. Et donc moi, il y a une part de moi qui est féminine, je l'assume pleinement, J'ai envie qu'on valorise aussi une part du féminin, que je ne veux pas réserver à moi parce que je suis née femme. Des hommes qui ont envie d'avoir des aspects, des qualités typiquement, traditionnellement féminines, ben je me dis c'est une chance pour eux. Et en fait, c'est cette liberté dont j'ai envie, de pouvoir jouer avec les identités de genre.
Allez, on écoute un autre morceau que vous avez choisi, c'est Madonna,
évidemment.
Like a Virgin, un morceau de votre adolescence, ça,
ou... Ah, je pense que Madonna, c'est un personnage qui a façonné une génération de femmes comme moi et qui justement joue des codes. Elle a une dimension queer avant l'heure,
oui.
et j'adore.
Madonna sur Radio Nova, un choix de Clémentine Autain. Clémentine, on parlait de vous à l'adolescence, justement. Est-ce qu'il y a eu des modèles d'identification du féminin? Bon, là, on vient d'écouter Madonna, mais peut-être pris dans la, je sais pas moi, soit dans la vie civile, soit dans la musique, soit dans le cinéma. Est-ce qu'il y avait des féminités ou des masculinités qui vous plaisaient? Vous vous souvenez comme ça?
Alors, j'ai toujours eu du mal à être fan et à avoir de l'admiration. Aussi bien pour des personnages historiques que pour... Toujours eu du mal. Bon, ça doit être une question de tempérament ou d'esprit critique un peu trop aiguisé. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on a, on n'a pas comme ça des personnages qui nous touchent, qui nous marquent. Alors, la chanson, beaucoup. Hein,
ouais.
En l'occurrence, en effet, aussi bien Barbara que Madonna sont des personnages qui m'ont marqué. Je n'ai pas tant écouté, mais il y a un personnage qui m'a beaucoup troublée, qui est Mylène Farmer.
Ah oui.
Qui m'intriguait énormément.
Oui.
Et qui m'intrigue toujours, d'ailleurs.
C'était très étonnant, en fait.
Voilà.
Ouais.
Je la trouve très étonnante.
Les vidéos, les chansons.
Paroles.
Ouais, les paroles.
Qu'elle chantait. Des choses qui m'ont...
Maman a tort, tout ça.
Voilà.
Des chansons très étranges.
Ouais. Exactement. Mmh. Et j'aimais bien, et je pense que je ne comprenais pas tout à fait, mais je pressentais que chez Mylène Farmer, il y avait quelque chose qui me parlait plus que chez Diane Tell, par exemple. Non, mais je dis ça parce qu'en même temps, j'ai chanté à tutelle, moi, si j'étais un homme, et en même temps, à chaque fois que je me pose et je lis les paroles, je me sens très étrangère à ces paroles, alors que je me sens plus proche des mystères de ce que raconte Mylène Farmer.
Dans le genre de
Clémentine Autain.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre de femme.
femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorce.
Puissant.
Masculin.
Masculin.
Musclé, séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre de la femme politique et journaliste Clémentine Autain. Elle publie chez Grasset « Dites-lui que je l'aime », un récit consacré à la relation difficile qu'elle entretenait avec sa mère, l'actrice disparue Dominique Lafin. Et on continue cette émission en musique, et c'est Jeanne Moreau, « La vie s'envole ».
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle n'a pas d'âme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune. Près d'un mari cousu de thune. Froide et la plus chaude des blondes. Près d'un mari à tête ronde. Près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir. Les hommes ils aiment les femmes à hommes, les femmes elles aiment les hommes à femmes. Au paradis y a plus de flammes, au paradis s'en vont les âmes. Alors elles crèvent d'ennui et se rappellent toutes les folies qu'elles auraient pu se payer sur terre. Elles rêvent à la fermeture éclair, qu'elles remontent à d'un air si fier. Elles rêvent des divans profonds entrevus dans les garçonnières. Mon Dieu, pourquoi fiche des manières. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard pour tordre son mouchoir. Les hommes ils aiment les femmes à hommes, les femmes elles aiment les hommes à femmes. Certains curés tombent les dames, même parfois les nonnes s'enflamment pour d'abominables hommes des plages qui les entraînent à la nage. Amours aquatiques et sauvages, faites la vie d'âmes honnêtes, quatre ridettes et nonnettes. Brunes ou blondes, mazouronnes, vous êtes sur la map monde pour faire plaisir à tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard pour mordre son mouchoir.
Voilà, c'était Jeanne Moreau, La vie s'envole sur Nova, un titre choisi par notre invitée, Clémentine Autain. Pourquoi Jeanne Moreau?
Parce qu'il y a Barbara et il y a Jeanne Moreau dans les chanteuses qui m'ont accompagnée toute ma vie. Et alors, ce qui est formidable avec ces chanteuses, c'est qu'on a toujours une chanson pour un moment. L'impression que chaque moment de vie, on va pouvoir trouver une musique, des paroles qui vont nous parler. Donc, ce que j'aime, c'est cette frivolité là, dans cette chanson-là en particulier, ce jeu, cette frivolité, ce allez, on vit quoi, allons-y.
Alors, on parlait de votre adolescence. Je citais aussi le livre que vous venez de publier. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre aussi, au-delà de votre histoire personnelle, c'est que c'est un livre qui met en relation deux générations de féministes. Il y a la génération de féministes de votre mère, celle de 68, qui est une génération, et votre mère l'incarne bien, peut-être brûlée, qui va se prendre un petit peu le mur comme ça, qui va penser qu'elle va pouvoir défoncer, rentrer dans les inégalités, et en fait qui va se les prendre. Et puis, il y a votre génération, qui est aussi la mienne, qui prend un peu, vous écrivez, l'égalité comme une affaire entendue, et qui se rend compte que l'égalité, finalement, c'est assez une fiction. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Comment la conquête a été différente, et en quoi cette égalité est une fiction? Voilà.
La génération de 68, qui est en fait celle de la deuxième vague. Il y a eu la première vague où on a exigé des droits, et notamment les droits civiques, le droit de vote. C'est l'époque des suffragettes. Et celle de 68, et je dis de 68 parce que le mouvement de libération des femmes ne se comprend pas en dehors du mouvement plus global de 68, qui dit le privé est politique, qui dit ne me libère pas, je m'en charge, et qui pose, à mon avis, une idée d'une force incroyable, qui est le privé est politique. C'est-à-dire ce qui se passe à la maison ne relève pas simplement d'une négociation entre deux personnes qui ne regardent pas la société, mais au fond le produit aussi d'une société. Donc si vous n'arrivez pas à bien négocier le partage des tâches domestiques à la maison, c'est pas que vous êtes juste incapable de faire face à votre mari et de faire vivre l'égalité, c'est juste qu'il y a des mécanismes si profonds qui font que dans chaque foyer ça se règle de la même manière, c'est-à-dire les femmes ont l'apanage de cette affaire-là, avec une histoire qui est comme une histoire au long cours, qui a enfermé les femmes dans la sphère privé, pendant que les hommes se sont arrogés la sphère publique. Et donc, le XXe siècle est vraiment le moment où on fait exploser cette répartition et cette hiérarchie. Première génération de féministes, on s'attaque à l'intrusion des femmes dans la sphère publique, et avec le mouvement de libération des femmes, on pose la question de la sphère privée en disant « mais c'est pas possible, on ne peut pas y être enfermé ». Et ce qui est décisif, c'est le droit à l'avortement, à la contraception, parce qu'à partir du moment où on n'est plus enfermé dans cette obligation et cette soumission, quelque part, parfois, parce qu'on n'en a pas les moyens, à faire des enfants, eh bien, la maternité heureuse, c'est-à-dire la condition de la maternité heureuse, c'est de pouvoir choisir librement d'être ou de ne pas être enceinte et donc parent. Donc ça, c'est un bouleversement historique absolument majeur, c'est une révolution et je pèse mes mots. Donc les pionnières de la génération de 68, elles y sont allées franco de port, elles ont parlé de choses dont on ne parlait pas, mis sur la table politique des questions qu'on estimait vraiment relevées. Enfin, on se souvient de l'accueil en 1949 du deuxième sexe, qui était un scandale. C'était Simone de Beauvoir qui parlait de son vagin, mais quelle horreur. Enfin, c'était d'une impudeur. Et puis, là, en faisant masse en 68, dans les années 68, ça apparaît comme une affaire collective. C'est-à-dire que les femmes parlent entre elles de leur vie quotidienne et se rendent compte qu'elles ne sont pas seules à vivre des choses qui leur font mal, mais qu'elles le vivent toutes et que peut-être il y a là un système ou en tout cas une donnée sociale qui pèse sur leur vie et donc qui peut être déconstruite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient social et politique, c'est le début de la solution. On peut donc le déconstruire et passer à la phase suivante. Nous, génération d'après, à l'école, on nous a dit, mais tout va bien, regardez dans le droit, l'égalité homme-femme existe, vous pouvez prendre la pilule, vous pouvez aller voter, vous pouvez... enfin vraiment, c'est magnifique, quoi. Et on se rend compte, on est même meilleur à l'école que les garçons, et on réussit mieux. Et au final, on se retrouve dans des situations d'inégalité, de difficulté à tout tenir, parce que une des questions majeures de notre temps, c'est de ne pas avoir pris la mesure de ce que signifiait l'entrée massive des femmes sur le marché du travail salarié, qui allait donc prendre en charge le travail domestique et parental que nous faisions à l'époque gratuitement, mais en tout cas à plein temps.
Oui,
et
on estime c'est temps de travail en fait.
Avec deux enfants, c'est très exact. Enfin, ça a été mesuré, c'est pas moi qui le dis, mais ça a été mesuré, c'est 39 heures de travail par semaine.
L'équivalent d'un temps plein,
exactement.
Même plus.
Si nous, on se met à travailler, qui fait ces tâches? Et donc, d'où la double journée de travail, voire la triple journée de travail, et les burn-out chez les femmes, et une situation infernale sur laquelle on n'a pas été prévenu. Et nous, on a pensé que ça allait être facile, qu'au maintenant, on allait pouvoir être plus féminine, que tout allait se passer. Et c'est pour ça que je dis, chemin faisant, les femmes se rendent compte que c'est l'équation infernale. Et c'est en général plutôt quand elles font des enfants, qu'elles rentrent dans la vie active avec ces histoires familiales, puis le plafond de verre dans l'entreprise, puis tout ça. Et elles se disent, mais qu'est-ce qu'on nous a raconté? Et donc, l'égalité n'est qu'un mirage. Mais je trouve que les femmes aujourd'hui... Alors, il y a la vague MeToo qui est sans doute la troisième vague féministe. Je pense que c'est d'abord aussi parce qu'elle est planétaire, ce qui n'est pas rien, comme le mouvement Libération des femmes, comme le mouvement des suffragettes. Donc, c'est une troisième phase qui touche aux violences faites aux femmes, mais qui, derrière, travaille plein d'autres questions, je crois.
Clémentine Autain, vous parliez justement de MeToo, que ça représentait peut-être la troisième phase féministe, parce que c'est vrai qu'on vit une époque qui est dure, si on regarde l'actualité, elle est vraiment très très dure, et en même temps très paradoxale, avec beaucoup d'avancées aussi. Enfin, il y a des reculs, il y a des avancées.
Merci de parler des avancées, parce que je vais tout de suite vous dire le fond de ma pensée. C'est que je trouve qu'il y a parfois un féminisme trop triste, trop défaitiste, et qui du coup ne parle pas aux nouvelles générations. C'est-à-dire que si on ne raconte que le backlash, la situation catastrophique, tout ce qu'on n'a pas gagné, j'ai l'impression qu'on se coupe de ce que peuvent ressentir notamment des femmes qui ont 20, 30 ans et qui ne comprennent pas ce qu'on raconte. Donc, moi, je dis...
Mais qui découvrent le féminisme avec beaucoup d'enthousiasme.
Mais qui nous trouvent vraiment casse-pieds, quoi. Parce que d'abord, c'est pas... Alors que c'est un mouvement qui, historiquement, a toujours été très joyeux. Moi, je milite pour un féminisme joyeux, ce qui est, à mon avis, presque, il n'y a pas d'essence du féminisme, mais ce qui est quand même une des caractéristiques fondamentales du féminisme dans les belles époques, les grandes époques, il est joyeux. Ce n'est pas quelque chose de triste, même si la question est grave, etc. Mais il y a de la joie, il y a du partage, il y a de l'humour, toujours de l'humour. Et c'est ce féminisme-là que moi j'aime, mais qui doit être aussi capable de regarder les victoires. Et aujourd'hui, on prend la mesure aussi du fait que les hommes doivent bouger eux aussi dans leur modèle de virilité, et qu'ils sont eux-mêmes aliénés, et qu'ils ont peut-être eux aussi à gagner. Ils ont sans doute beaucoup à perdre, parce que faire le ménage et tout ça, c'est chiant quand même, on ne va pas raconter de salade. Partager les tâches, il y a quand même plein de tâches qu'il va falloir partager. Mais se dire que les relations humaines vont pouvoir être basées sur deux sujets, pleinement sujets, moi je pense que c'est quelque chose qui peut décupler le plaisir, le désir.
Oui, et pas le minorer, comme on
exactement.
Peut le dire.
Exactement. Oui, oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ça me fascine. Les femmes qui ont eu peur et qui ont revendiqué la liberté d'être importunées, tout ce mouvement-là, qui, les féministes puritaines, moi ça me fascine. Je ne sais pas pourquoi on a décrété que parce qu'on était contre les violences sexuelles, on était puritaines. Pas du tout. C'est presque l'inverse. C'est-à-dire que moi, je fais le pari inverse. C'est qu'à partir du moment où il y aura le respect de l'autre et de son désir, alors on va pouvoir décupler les possibilités de séduction, de sexualité pleinement libérée. Et ça veut dire qu'on a du mal à imaginer la sexualité en dehors du rapport de domination. C'est-à-dire que la sexualité, la séduction, si elle n'est pas dans les schémas et dans ces codes-là, alors elle n'existe pas. C'est ça que ça veut nous dire. Alors elle n'existe pas. Eh bien, moi je dis que c'est l'inverse. C'est que dès lors qu'elle sera émancipée de ces rapports de domination et d'oppression, alors elle sera pleinement libérée et donc décuplée.
Justement, on parlait un petit peu des stéréotypes qu'il faut déconstruire. Ça m'intéressait qu'on en parle un petit peu en politique, parce que c'est un monde dans lequel ils sont encore très présents, il me semble. Et si je commence en partant de vous, parce que c'est intéressant, je trouve aussi que vous faites de la politique avec la pleine conscience de votre genre, c'est-à-dire en n'ayant pas peur de parler de choses qui vous sont arrivées. Ça, c'est assez rare, justement. C'est peut-être un héritage du féminisme, comme ça, comprendre que le public et le privé, qu'il faut changer ce rapport-là et que c'est une clé. Je regardais, par exemple, portrait de vous dans Libération assez récent, la journaliste décrit comment vous êtes habillée, on voit que ça ne vous enchante pas non plus. Est-ce qu'être une femme politique, c'est toujours être scrutée comme ça? Et puis, je vous regardais aussi sur un plateau de BFM, chez Guy Bourdin, je crois. La journaliste, vous coupez tout le temps la parole, ce qui n'arriverait jamais envers un de vos collègues masculins, je pense. Est-ce que ces stéréotypes du féminin et du masculin, ils sont encore très, très présents en politique, avec une masculinité très guerrière? Comment on combat ça?
Vaste débat. Vous voyez, j'ai fait un colloque à l'Assemblée nationale en partenariat avec Libération, une journée entière, justement sur femmes et pouvoir, pour aller réfléchir un peu sur qu'est-ce qui coince.
Parce que vraiment, en ligne, d'ailleurs, il y a deux heures, je recommande aux auditeurs d'écouter
ça. Vraiment, ça coince. Il n'y a pas de doute, ça coince complètement. Les femmes sont... ce sont des mécanismes multiples. C'est-à-dire que la politique est l'univers du pouvoir par excellence, symboliquement et concrètement. Il a été façonné par et pour les hommes et nous, on arrive là-dedans et on est quand même des intrus. Alors, les premières femmes, là encore, les premières femmes qui sont venues, elles étaient très minoritaires et j'ai observé qu'elles prenaient les codes masculins. C'est-à-dire qu'elles venaient, j'ai des modèles en tête.
Des Martine Aubry.
Marie-Georges Buffet. Exactement. Des femmes qui, même dans leur tenue, dans leur façon de faire, et je pense qu'elles n'avaient pas le choix à ce moment-là. C'est-à-dire, soit elles se moulaient et elles pouvaient survivre, soit c'était pas possible. Et donc, elles ont fait ça. Puis maintenant, on est beaucoup plus nombreuses. Et quand vous regardez même à l'Assemblée nationale, dans tous les groupes, vous voyez des femmes plus féminines, plus... Bon. Et en même temps, il y a un plafond de verre, quelque chose qui résiste. Et moi, je fais vraiment le pari qu'il faut qu'on tienne bon, parce que c'est très difficile, beaucoup partent. C'est insupportable, c'est d'une violence répétitive. C'est le fameux, c'est ce qu'explique fort bien Butler sur appel à l'ordre féminin. Mais en politique, c'est très fort et je le vois très bien. C'est-à-dire que c'est pas la phrase sexiste ou le moment hyper sexiste qui pose le plus problème, même s'il faut le regarder.
C'est tout le temps.
C'est la répétition et c'est cette répétition. C'est parce que une femme prend la parole dans une réunion, d'un seul coup un brouhaha s'installe, on commente votre tenue, jamais on ne va commenter. Je veux dire, moi on m'a demandé pour ce portrait de Libération et en même temps je comprends pourquoi on me le demande. Parce que je suis une femme et donc une femme, blablabla. Mais on me dit, comment ça se passe le partage des tâches domestiques chez vous? Mais j'aimerais qu'un homme politique me dise à quel moment on leur a demandé comment se passait chez eux le partage domestique. Mais je ne crois pas que cette question leur ait jamais été posée. Jamais. Les remarques sur leur tenue, c'est vraiment epsilon. Ça n'existe pas. Ils sont là, ils sont tous habillés pareil, ils sont gris, bon, très bien. Ils ont... mais il y a très peu de remarques. Alors que nous, il faut toujours qu'on soit commenté, scruté, plus l'intériorisation de la domination, qui est quand même une des clés aussi qu'il ne faut pas minorer. Je veux dire, il y a des mécanismes, les médias qui nous sous-invitent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tout ça qui fonctionne en boucle, mais nous aussi. Nous aussi, on ne se sent pas légitime, on a beaucoup plus peur. Si on ne maîtrise pas à 200% la question, on n'ose pas aller faire l'interview. Et moi, j'ai vu 1000 fois des femmes intervenir à la tribune de l'Assemblée nationale, descendre et dire « Ah, ça ne va pas, j'ai dit ça comme ça ». Enfin, bon, catastrophée de leur propre performance. Et par contre, autant d'hommes descendent et me regardent et me disent « C'était bien là, j'étais bien, non ?» Et donc, ils ont cette assurance absolument incroyable. Voilà. Mais vous avez peut-être vu le Marvel. Je recommande à tout le monde d'aller voir Captain Marvel.
Ah non, j'ai pas vu.
Alors, il faut aller voir Captain Marvel. Voilà, une fois n'est pas coutume, je vais faire la pub d'un blockbuster américain.
Il y en a des super bons, ouais.
Mais c'est récent, hein, parce que moi, ça fait plusieurs fois que je suis bluffée. Et c'est peut-être pas sans lien avec cette gauche américaine qui, en ce moment, est en train de reprendre du poil de la bête. Alors, je fais peut-être un raccourci, mais je me suis posé la question. C'est une des gauches les plus en forme à l'échelle planétaire. Et je vois ce... Et Captain Marvel, c'est ça, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire, voilà une femme qui est dans le monde donc des super-héros, et l'homme qui la forme lui dit « Tu ne peux pas être un super-héros si tu ne te coupes pas de tes émotions. Tu as trop d'émotions. Et si tu gardes tes émotions, tu ne seras jamais un super-héros. » Et en fait, la morale de l'histoire, tant pis, je vous la livre, c'est qu'en fait, elle ne se coupe pas de ses émotions, et c'est parce qu'elle ne s'est pas coupée de ses émotions qu'à la fin, c'est elle qui gagne. C'est elle qui gagne. Et elle gagne et elle fait quelque chose de différent de sa victoire, de ce qu'aurait fait un homme. Et donc, je trouve que c'est incroyable parce que c'est numéro un des vues. Et il se passe quelque chose en ce moment parce que ma conviction, c'est qu'il ne faut pas se mouler dans le pouvoir masculin. C'est qu'il faut y aller en ayant l'idée de subvertir les codes de l'exercice du pouvoir.
Mais ça, c'est très intéressant parce que vous dites, on ne peut pas être compétitive si on va sur ce mode guerrier physique. On doit abaisser le niveau viril et guerrier de la politique, ne pas s'aligner. Et vous dites, je vous jure, c'est compliqué.
Ah mais c'est... Moi, il y a même des jours, je vous le dis franchement, je me lève, je me dis, mais en fait, l'équation est impossible. C'est impossible, je ne sais pas comment on peut faire. Je ne vois pas comment on peut faire. Et des hommes viennent parfois me voir et me dire, et presque s'affaler devant moi, et me disent, t'as raison, il faut vraiment qu'on baisse, c'est trop brutal, c'est trop violent. Mais je dis, mais oui, il faut abaisser le niveau. Alors, c'est difficile d'abaisser le niveau, très difficile.
Allez, on écoute justement une chanson sur les hommes. Michel Polnareff, Je suis un homme, sur Nova.
La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Oh, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme, comme on en voit dans les muséums. Un Jules, un vrai, un bout en train, toujours prêt, toujours gai. À mon procès, moi j'ai fait citer une foule de témoins, toutes les filles du coin qui me connaissaient bien. Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment, j'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré: je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Pour mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme, pas besoin d'un référendum ni d'un expert pour constater qu'elles sont en nombre pair. En 70, il n'est pas question, ce serait du vice, de marcher tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain et un de ces jours, quand je chanterai aussi nu qu'un tambour, vous verrez bien que... Je suis un homme, je suis un homme, et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, pour lui mon style correspond reviens à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme pour mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme.
Dans le genre.
Dans le genre.
Dans le genre.
De.
Clémentine Autain, quelle relation vous entretenez avec votre physique ?
Ah, oh, c'est une bonne question. Alors là, c'est dur à définir parce qu'en fait, d'abord, c'est pas fixe. C'est assez mouvant. Je sais pas.
C'est un rapport apaisé ? C'est un rapport compliqué ? C'est...
plus apaisée que quand j'étais plus jeune. Mais comme beaucoup de femmes, je crois, il y a toujours un paradoxe total, c'est-à-dire à la fois du complexe, comme beaucoup de femmes, et donc des complexes divers et variés. Je ne vais pas m'étaler sur mes complexes, mais comme beaucoup de femmes, voilà, plein de complexes. Et en même temps, aussi, la peur d'être regardée comme une belle femme et donc débile, qui m'a quand même beaucoup habitée. Donc j'ai un rapport presque...
jeune, blonde, femme.
Femme, voilà. Et donc des fois, j'ai l'impression que je voudrais être moins jolie, et d'autres fois, évidemment, plus profondément, le complexe qu'ont beaucoup de femmes. Et donc je me dis, voilà, c'est infernal, en fait, c'est indémerdable, un truc pareil. Donc j'essaie de le traiter, tout ça, par le mépris.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire, vous ?
Qu'est-ce que je mets en avant pour séduire qui ? D'abord, ça dépend. Hein.
C'est vous
franchement,
qui voyez.
Ça dépend. Hein. Ça dépend pour séduire qui, vraiment. Si c'est dans une séduction amoureuse ou dans une séduction intellectuelle ou dans pas les mêmes, forcément les mêmes.
Vous pouvez me donner un exemple ou pas du tout ?
Qu'est-ce que je peux mettre en exemple ? Je dirais que le point commun, sans doute, je pense qu'on n'est jamais plus séduisant qu'en essayant de tirer au plus naturel. Je ne crois pas trop à au calcul, à la sophistication. Voilà. Je crois pas trop à ça.
Au code de la séduction, non.
Ouais, non, je pense que... Par exemple, ça c'est une réflexion que j'ai eue depuis longtemps, le rapport à l'image, à la télé en particulier, cette image qui nous capte, etc. Si on pense à ce qu'on est en train de faire et à l'image qui nous capte, alors je crois qu'on n'est pas dans le juste.
On n'est plus dans ce qu'on dit, ouais.
On est décalé. Et c'est vrai que j'ai plutôt toujours l'obsession d'être dans mon axe.
Et c'est pour ça que
justesse.
J'ai essayé de garder une image assez fixe aussi, quelque part.
Oui.
Pour qu'elle n'encombre pas plus que ça.
C'est vrai que maintenant que j'ai eu 46 ans, donc j'ai commencé à faire de la politique et tout ça, j'avais ouais, c'est ça, 25
ans,
ouais. Donc il y a 20 ans. Et on me dit souvent, mais ton image ne bouge pas, t'as pas changé de coupe de cheveux.
Ouais.
Et même dans
la façon de s'habiller.
La façon de m'habiller, alors que spontanément, j'aurais envie de choses beaucoup plus... beaucoup plus rigolo, je pense, je mettrais des choses plus folkloriques. Mais j'ai une certaine règle pour que ce soit pas le sujet, justement. J'ai pas envie qu'on commente mon changement de coupe de cheveux, même mon changement de lunettes. Je fais à minima, si j'ose dire. Ouais. À l'économie.
Est-ce que vous auriez aimé être un homme ?
Non. Non.
Jamais ?
Non, c'est pas... D'abord, on choisit... Donc moi, je suis pas du tout dans le regret, donc c'est comme ça. Je suis une femme... Voilà.
Et est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente ?
J'aurais aimé avoir plein de vie et faire plein d'autres choses, oui, sans doute.
Et par exemple, est-ce
quel genre
que vous
d'autre
imaginé
vie ouais. Comme autre vie, la recherche, sans doute.
Ah ouais ?
Ouais. Les fantasmes, si je fantasme, alors dans mes chansons qui m'accompagnent, il y a Jeanne Moreau, donc je vous le disais tout à l'heure, et donc par exemple, il y a cette petite vie de cocagne, vous la connaissez ? Alors c'est une chanson où elle est dans sa voiture, dans les embouteillages, donc ça c'est une scène de mon quotidien bien connue, et elle raconte qu'elle rêve toujours de se tirer, de se barrer, de foutre le camp, et d'aller dans une maison de campagne, d'avoir des chats, des chiens, des tas d'enfants, un vieux fauteuil au coin du feu, et en fait, elle tourne les pages, et voilà, il y a son mari qui lui amène un coup à boire, et puis il se passe cette espèce de temps comme ça, suspendu, très simple. Très... Ça, c'est mon rêve, mais qui est un fantasme qui ne me correspond en réalité pas du tout. Mais sans doute que j'ai besoin de régulièrement de fantasmer. Alors la recherche fait partie du métier qui peut-être aurait correspondu à cette vie parfaitement rythmée. Mais sans doute, j'en suis incapable. En tout cas, l'homme qui partage ma vie, à chaque fois que je lui raconte ça, me dit oui, bien sûr, mais me dit tu ferais du macramé, t'arrêterais la politique, tu ferais du macramé, tu serais à 200% aussi, donc arrête de raconter n'importe quoi.
Bon, bah, ça sera notre mot de la fin. Merci Clémentine Autain.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission, elle a été réalisée par Benoît Thuot. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Je vous rappelle le titre du livre de Clémentine Autain qui vient de sortir chez Grasset, dites-lui que je l'aime. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.